Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La librairie des livres interdits est un roman contemporain à dimension dystopique de Marc Lévy, publié en 2024. Il place son intrigue dans une Amérique où une législation de censure, inspirée de débats réels sur le retrait de livres dans certains États, transforme la circulation des œuvres en délit. Mitch, libraire animé par une passion héritée des livres, est arrêté pour avoir vendu des titres prohibés. Après 5 années de prison, il tente de reprendre possession de sa vie, de sa librairie et de ses choix. Alors que ressurgissent le procureur lié à sa condamnation et la possibilité d'une relation avec Anna, une jeune chef. Le récit associe ainsi suspense, romance, désir de réparation et réflexion civique. Son objectif n'est pas de construire une dystopie très éloignée du présent, mais de rendre perceptibles les conséquences humaines de la censure. Les livres y deviennent des objets de mémoire, de débat et de résistance. Tandis que la trajectoire de Mitch interroge le prix personnel du refus de se soumettre. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une dystopie ancrée dans les débats contemporains sur les retraits de livres. Le choix le plus distinctif du roman consiste à rapprocher la fiction dystopique d'un cadre politique reconnaissable. La loi, qui interdit certains ouvrages, fait écho aux controverses américaines autour de la limitation de livres dans les écoles et les bibliothèques. Notamment lorsque les textes abordent le racisme, les identités, la sexualité ou des pages difficiles de l'histoire nationale. Marc Lévy ne présente donc pas la censure comme un phénomène abstrait ou réservé aux dictatures historiques. Il en montre la progression par des procédures, des interdictions et une normalisation administrative qui atteignent progressivement les pratiques ordinaires. Ce déplacement est important, le danger ne réside pas seulement dans la destruction spectaculaire des livres, mais dans la possibilité de les rendre inaccessibles. Suspect ou coûteux à défendre. Le roman rappelle ainsi les grands récits consacrés au contrôle culturel, dont Fahrenheit 451, sans se limiter à une reprise de leur code. Son contexte contemporain donne au sujet une portée immédiate. La question centrale devient moins celle des seuls titres prohibés que celle du pouvoir chargé de décider quelles idées peuvent rester disponibles. En faisant de cette décision politique le point de départ d'une destin individuel, le récit relie directement liberté de lecture, pluralisme social et vulnérabilité des droits civiques. Deuxièmement, la librairie clandestine, comme lieu concret de résistance intellectuelle, la librairie de Mitch ne sert pas seulement de décor chaleureux pour des lecteurs. Elle représente une infrastructure modeste mais décisive de circulation des idées. La découverte d'une pièce secrète et la conservation de livres interdits permettent aux personnages de créer un espace clandestin de prêt et de partage. Cette mécanique narrative rend tangible ce que la censure cherche à détruire non seulement un stock de textes, mais aussi les liens entre ceux qui les recommandent, les transmettent et les discutent. La résistance décrite reste à échelle humaine. Elle ne repose pas sur un héros invincible ni sur une technologie spectaculaire, mais sur la confiance, la discrétion et la persistance de lecteurs. Ce choix donne une valeur concrète au geste de conserver, prêter et lire. Il souligne également que les œuvres menacées ne sont pas uniquement rares ou scandaleuses. Plusieurs classiques évoqués dans le contexte du roman portent sur les injustices, la persécution ou la dignité humaine. Leur retrait risque donc de limiter les ressources nécessaires pour comprendre le passé et mettre des mots sur le présent. La librairie devient ainsi un lieu de mémoire collective. Elle protège des livres, mais elle protège aussi la possibilité même d'une conversation critique entre citoyens. Troisièmement, Mitch face au coût personnel de la désobéissance civile, le roman ne réduit pas la défense des livres à un principe confortable. Mitch est emprisonné pendant 5 ans pour avoir enfreint une loi qui criminalise sa pratique de libraire. Cette conséquence place la liberté d'expression sur le terrain de la responsabilité individuelle résistée, peut entraîner la perte du travail, du temps, de la sécurité et des relations ordinaires. À sa sortie de prison, le personnage ne revient pas simplement au point de départ. Il doit composer avec les traces de la condamnation, avec le désir de retrouver son commerce et avec le ressentiment envers le procureur qui a participé à son sort. Cette tension évite de présenter l'engagement comme une posture purement héroïque. Mitch défend les livres, mais il demeure un homme atteint par une injustice et tenté par la vengeance. Le récit oppose alors deux manières de rester captif du passé, subir durablement la violence institutionnelle ou laisser cette violence dicter ses propres actes. Le rapport naissant avec Anna introduit une autre perspective, tournée vers la reconstruction et la possibilité d'une vie après la sanction. En associant conflit politique et conflit intime, Marc Lévy donne un visage aux effets de la répression. La question du pardon ne remplace pas la critique de la loi, mais elle complique utilement le parcours de celui qui en a été victime. Quatrièmement, les livres interdits comme mémoire des injustices et outils de jugement, les ouvrages visés par la censure dans le roman ont une fonction symbolique précise. Il renvoie notamment à des récits qui confrontent les lecteurs au racisme, aux persécutions, aux inégalités ou aux dérives autoritaires. Leur interdiction ne signifie donc pas seulement que certains contenus disparaissent des rayons. Elle risque aussi de réduire la diversité des expériences auxquelles une société accepte de se confronter. Le livre insiste sur le fait que la lecture développe la faculté de comparer les récits, de reconnaître les mécanismes de domination et de nuancer son jugement. Cette approche ne suppose pas que chaque œuvre soit irréprochable, ni que toute discussion sur les contenus soit illégitime. Elle met plutôt en cause une réponse autoritaire qui substitue une interdiction générale à la médiation, au contexte et au débat. Le roman rejoint ici une idée classique des fictions sur la censure. Contrôler les textes aide à contrôler les cadres par lesquels le passé est compris. Toutefois, son traitement reste accessible, car il passe par le quotidien d'un libraire et de ses lecteurs plutôt que par une démonstration théorique. Les livres sont envisagés comme des objets matériels à protéger, mais aussi comme des archives vivantes. Les rendre disponibles revient à maintenir ouvertes des questions que le pouvoir préférerait clore. En dernier lieu, un récit hybride entre thriller civique, romance et comédie engagée, la librairie des livres interdits se distingue par son alliance entre un sujet politique grave et les codes populaires du récit de divertissement. L'arrestation de Mitch, son retour après la prison, la présence du procureur et les activités clandestines apportent une dynamique de suspense. En parallèle, la rencontre avec Anna et le dilemme entre vengeance et attachement affectif donnent au roman une ligne sentimentale. Cette hybridation correspond à la manière de Mark Levy, dont les récits privilégient souvent une écriture fluide, une progression rapide et des enjeux émotionnels lisibles. Elle rend le thème de la censure accessible à des lecteurs qui ne recherchent pas nécessairement un essai politique ou une dystopie austère. Le revers de ce parti pris est que certains lecteurs peuvent trouver le traitement moins détaillé ou moins radical que dans des œuvres d'anticipation centrées exclusivement sur les institutions totalitaires. Le roman ne vise pas la complexité doctrinale d'un essai sur la politique culturelle. Sa force réside plutôt dans sa capacité à faire cohabiter réflexion publique et attachement aux personnages. La censure ne demeure jamais un décor conceptuel, elle perturbe les amours, les loyautés, le métier et le rapport au passé. Cette combinaison explique son positionnement de comédie engagée, où la gravité du propos n'est pas séparée de la recherche de plaisir narratif. En conclusion, la librairie des livres interdits conviendra aux lecteurs de romans contemporains qui souhaitent aborder la liberté de lecture sans entrer dans un texte documentaire ou théorique. Il peut aussi intéresser les habitués de Mark Levy, sensible à ses intrigues accessibles mêlant relations humaines, rythme romanesque et questions de société. Les lecteurs attirés par les dystopies politiques y trouveront moins une construction institutionnelle exhaustive qu'une fable proche de préoccupations actuelles, centrée sur les conséquences concrètes d'une loi de censure. Le bénéfice intellectuel du livre tient à la clarté avec laquelle il relie le retrait des œuvres à des enjeux plus larges, transmission de la mémoire, diversité des voix, jugement critique et limite du pouvoir public. Sur un plan plus personnel, le parcours de Mitch invite à considérer le coût de la désobéissance ainsi que la difficulté de reconstruire une existence après une injustice. Par rapport au classique plus sombre du genre, le roman se singularise par son ton hybride. Il ne traite pas la censure uniquement par la peur ou la catastrophe, mais par une intrigue qui laisse de la place aux sentiments, au suspense et à une forme d'espoir. Cette orientation peut paraître plus légère que celle de certaines grandes dystopies. Mais elle constitue aussi sa spécificité, faire circuler une réflexion civique auprès d'un large public. Le livre rappelle, finalement, que défendre la littérature relève autant de gestes ordinaires de lecture et de transmission que de grands discours sur la liberté. Si vous souhaitez soutenir Mark Levy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.